Morning Edition from NPR News.
Das sieht hieß an Hinterhausen.
France Inter, le 18-20.
Et ce soir, nous allons à Cannes, à la veille du tapis rouge. Elles vont faire du bien, ces images de Cannes. Mais comment va le cinéma mondial? Dans quel état sortir de la crise? Est-ce que c'est toute la production mondiale qui désormais est bouleversée? Qui a préféré rester sur les plateformes? À quoi va ressembler la production cinématographique dans le monde après une pareille année? On y vient dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est au Mali, avec la question qui divise et même qui fracture la France et le Mali. Faut-il discuter avec les djihadistes? Le bruit du monde, la suite sous les radars. Maria Melkurdi a trouvé des hélicoptères de l'armée libanaise détournés de leur usage premier, je ne vous en dis pas plus. Un confinement pas facile à respecter à Dhaka, au Bangladesh, et puis un concert privé sur Herbe, c'est au Danemark. 18h50, l'Amérique d'après Trump avec le Iglouri. Là aussi, vous le verrez, les appels à se vacciner sont nombreux. Ils viennent des Républicains et ça n'est pas innocent. 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four en Cisjordanie, où comment Mahmoud Abbas est en train de devenir l'ennemi de son propre peuple. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Dès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Manuel Chiche.
Bonsoir.
Vous êtes producteur et distributeur. Vous dirigez une société indépendante qui s'appelle The Jokers. Vous avez la palme d'or, la dernière palme d'or à votre actif. C'était celle de Parasite en 2019. En ce moment, en salle, vous avez La Nuée. C'est un premier film de Juste Philippot. Et bonsoir à vous, Laurent Delmas.
Bonsoir, Fabienne.
Qu'on ne présente pas, Laurent, évidemment, quand on parle de cinéma sur France Inter. Vous êtes déjà sur le pied de guerre dans le studio de France Inter au Festival de Cannes. Manuel Chiche, dites-moi, je le disais tout à l'heure, les images vont être jolies. On est content de revoir, évidemment, un vrai tapis rouge, des acteurs et des actrices, un cinéma mondial. Mais est-ce que vous avez l'impression que c'est un homme malade qu'on voit sur le tapis rouge ou pas du tout?
On voit l'état de la création en 2021. Est-ce que c'est un homme malade? Ça reste à voir, puisque encore faut-il que ces créations trouvent leur public, un public qu'on a biberonné à l'hypermarché des plateformes depuis un an et demi. Donc c'est une vraie interrogation qui concerne toute la profession, ou en tout cas tous les indépendants.
Est-ce que ça veut dire que vous, qui à la fois distribuez et produisez, l'urgence au moment où on se parle, c'est plutôt distribuer que produire? Est-ce que ça veut dire ça quand on a une maison comme la vôtre?
Non. On gère les deux de manière simultanée, de toute façon, dans l'idéal, produire ce qu'on distribuera à terme. Mais non, l'interrogation, elle est plus vis-à-vis du public. Et je pense que la vraie question, elle est quel est l'état du public aujourd'hui?
Alors, on l'a vu un tout petit peu quand même, en tout cas à notre échelle. Il y a eu une ruée sur les salles dès qu'elles ont été ouvertes. Et ensuite, on a un peu marqué le pas. On s'inquiète de ça ou c'est juste ça pour le coup, le schéma normal, surtout en début d'été, qui n'est pas forcément la meilleure période du cinéma?
La ruée sur les salles, elle a effectivement eu lieu, mais elle s'est concentrée grosso modo sur des...
J'espère qu'on n'a pas perdu Manuel Chiche. Du coup, je vais vous poser la question à vous, Laurent Delmas. On a bien senti qu'il y avait eu un creux, en fait. Et surtout, comme commençait à le dire Manuel Chiche, qu'on va récupérer dans un instant, il y a eu des spectateurs particuliers, une sociologie en quelque sorte des amateurs de cinéma dès que ça a rouvert.
Mais il a raison, Manuel Chiche de Villon, de poser la question cruciale du public. Effectivement, qui retourne, pourquoi, pour voir quoi, et surtout, qu'est-ce qu'on propose? Or, effectivement, il y a eu certainement un déficit, par exemple, de blockbusters qui sont censés drainer, charmer un public jeune et assurer en quelque sorte pas mal d'entrées en salle. Or, effectivement, ces films là n'était pas en quelque sorte au rendez-vous. Donc ce public-là n'a pas été au rendez-vous. C'est peut-être ce qui explique effectivement le reflux un tout petit peu de cette vague-là.
Et aussi,
en plus,
Laurent,
il y a certainement eu des problèmes entre guillemets du côté des spectateurs un peu plus âgés peut-être, qui auront eu un peu plus de mal à sortir aussi rapidement.
Mais aussi, Laurent, on voit bien cette frilosité quand même. Vous parliez des blockbusters, alors il y en a eu un certain nombre dans l'entre-deux quand ça a rouvert. Ça n'a pas forcément bien marché d'ailleurs, ça n'a pas été réellement spectaculaire. Et là, tous ceux qui ont des choses énormes sous le coude, les James Bond et compagnie, attendent de voir comment le marché va se comporter. Ils n'y vont pas au flanc tout de suite.
Mais il y a une vraie prudence que certains peuvent juger peut-être même criminelle, c'est-à-dire à force de retarder, on peut se demander si la machine va repartir. C'est ça quand même la question. On voit bien là à Cannes notamment qu'il y a eu effectivement des décisions de studios américains de retenir des films, de ne pas les présenter. Donc c'est vrai que ça c'est une question, c'est un souci. Et en plus, comme effectivement l'actualité le prouve, on a quand même une incertitude sur éventuellement un rebond de nouvelles vagues à travers le monde. Ça ne peut guère aider à la décision de sortie mondiale, c'est sûr.
Manuel Chiche, maintenant qu'on vous a retrouvé, vous êtes là, Monsieur Chiche?
Oui, désolé.
Ah, formidable. Non, je vous en prie, c'est pas de votre faute. On était en train de s'interroger effectivement sur ceux qui sont revenus au début très largement et puis ensuite qui ont marqué le pas.
Ah ben, de toute façon, les entrées depuis la réouverture sont concentrées grosso modo sur trois films qui sont Cruella, Conjuring 3 et Sans un bruit 2, pour faire court. Ouais. On voit bien à quoi ça ressemble. Enfin, de mon point de vue, et ça n'engage que moi, c'est l'équivalent de films de plateforme. Mm-hmm. Donc, je pense que l'habitude créée par ce mode de consommation des films va peut-être faire des dégâts. Il faudra du temps pour que on réveille la curiosité des spectateurs.
Je pense pour aller dans votre sens, à certaines majors. Je pense à Disney, par exemple, qui a renoncé à certaines sorties. Il y a deux ou trois semaines, la même semaine, Nomadland est sorti en salle, et puis Raya et les dragons est resté sur Disney+. Pixar a laissé son film d'animation, et pourtant c'est d'énormes entrées normalement, a laissé son film d'animation sur les plateformes. Est-ce que ça veut dire que désormais, on va regarder, mais peut-être y compris vous, les films comme plateforme compatible ou salle compatible?
Je ne sais pas. Je pense plutôt qu'ils sont dans une stratégie d'avoir et le beurre et l'argent du beurre. Mmh. Donc, dès qu'on pense que le potentiel est là pour attirer du public en masse, en salle, et ils ont des moyens pour ça, ils les lancent en salle, tout en préservant quand même l'attractivité de leur plateforme. Mm-hmm. Donc je pense que ça va être un phénomène de balancier et qui est parti pour durer très longtemps.
Très longtemps ou même ne jamais s'arrêter en fait, parce que le cinéma en a vu d'autres, hein, mais on a bien dit que cette pandémie avait simplement accéléré un phénomène qui de toute façon était là, celui des plateformes. Donc en gros, est-ce qu'on est obligé désormais de faire avec à tous les niveaux, le vôtre et ceux des énormes machines? On est désormais obligé de réfléchir comme ça ou pas?
On est obligé de faire avec de toute façon, mais ça fait longtemps qu'elles sont dans le paysage et on sait que c'est une mutation inévitable. Après, charge à nous, si on y arrive, et j'en ai à ce jour pas la moindre idée, de réveiller la curiosité.
Comment vous faites, vous, par exemple? Est-ce que vous vous interrogez? Qu'est-ce que vous avez comme embouteillage, vous, par exemple, Manuel Chiche, dans les films que vous avez là et que vous n'avez pas pu sortir? Ça se chiffre en combien, ça? À combien de films?
Non, mais nous, on est une toute petite structure, donc je dirais que l'embouteillage, il est aux alentours de 5 films, dont 3 sont déjà sortis. À la réouverture, c'était le second film de Jérémy Guez, Sons of Philadelphia, puis La Nuée à la mi-juin, et l'excellent Teddy des frères Boukherma le 30 juin. Et on voit bien, comme avec nos collègues, que des films comme Teddy, La Nuée, Gagarine, Ibrahim, voire Minari, tout ça est relégué au rang d'outsider. Donc on espère que le festival va réveiller un peu tout ça. Il y a beaucoup de sorties simultanées. Donc, avec les présentations au festival, donc on espère que ça va réattirer des gens curieux qui, à mon sens, aujourd'hui, ont préféré retrouver le goût des terrasses, peut-être plus que celui du cinéma.
Mais peut-être le foot aussi. Enfin, il y a beaucoup de paramètres qui ne vous aident pas, peut-être, en ce démarrage. Laurent Delmas, c'est vrai que le festival sert aussi à ça, non? Booster les entrées, redonner une envie de cinéma, c'est aussi à ça que ça sert, le tapis rouge, hein.
Ben oui, Thierry Frémaux, pour ouvrir la conférence de presse de présentation du festival, a déclaré le cinéma en français, le cinéma is back. Voilà, c'était bien la volonté effectivement de dire que il considère, et à juste titre certainement, que Cannes est d'abord une fenêtre incroyablement ouverte sur le monde et sur les mondes du cinéma. Ça, c'est très très important de le dire. On va voir des films africains par exemple, ce qui est toujours rare, et c'est tant mieux de les voir ici. Et c'est vrai que c'est un éclairage incroyable porté au film, et comme le dit dit très bien Manuel Chiche, il y a un choix qui est judicieux à mon sens de sortir un certain nombre de films en même temps, parce qu'il y a une frustration parfois dans le public, on parle beaucoup des films de Cannes, mais on ne les voit pas tout de suite. Ça, c'est une frustration qu'il faut essayer quand même le plus possible d'éviter, sans évidemment qu'il y ait un embouteillage de films cannois pour autant. Mais je pense que cette politique est la bonne, c'est-à-dire qu'effectivement, le film de Léos Carax, dont on commence beaucoup à parler et qui sera présenté en ouverture du festival, c'est très très bien qu'il sorte en même temps dans les salles et que le public puisse aller s'y frotter comme nous y serons frottés, nous, en tant que spectateurs à Cannes.
Je vais vous poser la question, je la poserai aussi à Manuel Chiche. On n'oublie pas que Cannes, c'est aussi un marché, hein, on achète et on vend pendant le festival de Cannes. Est-ce qu'on se dit que à la sortie de ce festival, effectivement, en fonction de l'état du marché, est-ce qu'il s'est vraiment bien vendu ou pas, on saura si on est reparti ou si on est vraiment sur un schéma complètement différent?
Je pense effectivement que ça sera un bon indicateur, et là Manuel Chiche aura plus d'outils que moi, de façon même économique, mais ce sera, oui, certainement une façon de se dire comment les choses repartent, à condition quand même aussi peut-être de mettre certaines limites, dans la mesure par exemple où on sait bien qu'il y a deux fois moins de monde et qu'il y aura deux fois moins de monde concerné au Festival de Cannes cette année. Donc c'est un marché qui est certes là, mais avec des acheteurs un peu moins présents, et les allées du marché seront un peu plus vite que d'habitude. Ça va être un problème, ça.
Est-ce que les allées du marché, Manuel Chiche, ce sera un bon indicateur, ou justement, comme le dit Laurent, pas encore, en fait, peut-être pas sur ce festival-là?
Eh bien, je rejoins Laurent, je pense que pas encore. Parce que la plupart de nos collègues, comme nous, sommes engagés sur un certain nombre de projets amenés à sortir dans les un an et demi ou deux ans qui viennent. Et aujourd'hui, je dirais que toute la profession est un peu dans une situation d'expectative. Regardez ce que devient le marché, d'une certaine manière, du cinéma, pour pouvoir aviser et prendre position plus tard.
Je vais pas vous piéger, je sais pas si vous pouvez répondre à cette question, mais elle me vient à l'esprit quand j'entendais Laurent nous parler de films africains, par exemple. Nous, on a la chance, ça a été une année compliquée pour le cinéma français, mais on a la chance d'être une espèce d'îlot par rapport à beaucoup d'autres, avec des aides spécifiques qui sont les nôtres. Est-ce que on va se rendre compte au fil de l'année que certains cinémas sont sinon morts, en tout cas en mauvaise posture? Donc le cinéma africain, je ne sais pas, le cinéma italien qui était déjà en très mauvaise posture. Je pense aussi, pour aller même encore plus loin, qu'est-ce qui se passe à Bollywood, par exemple, qui est un énorme générateur de films sur toute une partie du continent. Est-ce qu'on se rendra compte dans l'année que certains cinémas de certains pays ont disparu?
Je pense pas, puisque de toute façon, il y a toujours une demande de contenu audiovisuel, que ce soit pour les télévisions ou les plateformes. Donc en fait, le cinéma disparaît pas, il mute. Mais vous avez tout à fait raison de parler de notre cinéma national, qui est effectivement beaucoup aidé, et c'est certainement aussi une des raisons pour lesquelles il est probablement un des plus dynamiques au monde.
Et celui qui peut-être, à votre avis, s'en sortira le mieux après cette année et demie?
Je pense que notre cinématographie reste encore très vivace. Sous réserve de rencontrer son public.
Est-ce que vous avez beaucoup produit, Manuel Chiche, pendant cette année ou année et demie, ou est-ce qu'au contraire, justement, les investisseurs avaient du mal à être là, donc les projets ont eu du mal à se lancer? Est-ce que les gens comme vous et d'autres ont beaucoup de projets dans les tiroirs, mais dont on n'a pas vraiment su si on les faisait aboutir ou pas, si l'argent serait là ou pas?
Non.
Okay.
On est en train de tourner en ce moment un premier long métrage d'un réalisateur qui s'appelle Jimmy Laporal Trésor, dont on est au 21e jour de tournage aujourd'hui. Et on a également coproduit avec d'autres sociétés de production. Donc non, on s'est pas arrêté, mais comme d'habitude, on essaye de faire peu mais bien, quoi.
Quand vous dites qu'il va falloir que le cinéma retrouve un public, et vous disiez même trouve un public, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller les chercher différemment? Comment on fait pour attirer peut-être un autre public, ou en tout cas pour que le public revienne?
J'adorerais avoir la réponse en vérité. J'aimerais qu'on me donne les moyens d'une major. Et que je puisse aller les chercher de cette façon-là. Après, c'est un peu le bâton du pèlerin. On va prêcher la bonne parole, et puis en essayant de pas perdre les brebis.
Vous y croyez, vous, au fait que les gros blockbusters américains vont ramener aussi les gens, y compris vers des films comme les vôtres, vers des films plus exigeants? Vous pensez que c'est vraiment une locomotive,
pas trop,
ou pas?
Ouais. Pas trop. Je pense que c'est... C'est en train de devenir la norme, en réalité. Et les majors, cela dit, produisent pas que des blockbusters. Ils produisent parfois des films assez intéressants. Mais je pense que le public, en tout cas à ce stade, est vraiment focalisé. Je pense sur des espèces de valeurs sûres. Et j'aimerais bien qu'il ouvre un peu plus les yeux et regarde sur les côtés, quoi.
Est-ce qu'on a perdu des salles, nous, Manuel Chiche, ou est-ce qu'au contraire, on a sauvé ça? Parce que dans certains pays, effectivement, l'une des difficultés, y compris aux États-Unis d'ailleurs, c'est qu'il y a beaucoup de salles qui ont disparu. Ça veut dire moins de distribution et ça veut dire beaucoup moins de risques aussi quand on sort quelque chose. Beaucoup moins de prise de risque plutôt.
Tout à fait, mais non. Comme toujours, on a la chance d'être un secteur qui est très soutenu par l'État. Mm-hmm. Et justement, les salles ont été extrêmement soutenues pendant la durée de la pandémie, qui, j'espère, arrive vers sa fin et pas vers un nouveau rebond.
On croise tous les doigts pour ça.
Absolument. Donc non, on n'a pas perdu de salles. Je pense qu'il y a des salles qui ont été un peu handicapées. Mmh. Mais pour l'instant, ça tient. Et aujourd'hui, à mon grand regret, les salles essayent d'aller vite et privilégient tout ce qui peut faire rentrer du spectateur
le
plus vite possible.
On vous souhaite malgré tout un très joyeux festival, Manuel Chiche. À vous aussi, Laurent Delmas, on vous attend évidemment sur l'antenne de France Inter. Et puis tiens, puisque je vous tiens, Manuel Chiche, Parasite est diffusé sur France 3 ce soir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu et ne l'ont pas vu sur les plateformes, ben c'est une troisième solution. Merci beaucoup, merci vraiment vraiment à tous les trois, à tous les deux.
Le 18-20. Fabienne Saintès sur France Inter.
La suite ce soir, c'est le bruit du monde au Mali avec cette question, faut-il négocier avec les djihadistes? La question rupture même entre le Mali et la France. Et puis pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Maria Melkurdi.
Oui, on parlera notamment de concerts de violon accordés à un public inhabituel, un public de bovins dans la campagne danoise.
Allez, l'Amérique d'après Trump et Loïc Loury. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Fabienne. Et Joe Biden a peut-être célébré un peu vite la fin de la pandémie.
Eh ben, il n'est pas le seul. Le monde d'après. Bonsoir Jean-Marc Four.
Bonsoir à tous. En Cisjordanie, les Palestiniens manifestent, mais pas contre les Israéliens, contre leur propre président, Mahmoud Abbas, corrompu et vieillissant.
À tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète, ce n'est pas fini. L'escale musicale, c'est pour l'Afrique du Sud. Harare du Quatuor, Black Jack, c'est sur France Inter.
Yeah.
Le bruit du monde ce soir est au Mali avec la question qui fâche et c'est même la raison de la fracture entre les autorités maliennes et la France. Faut-il négocier avec les djihadistes? Pour le président français, la réponse est non. C'est en partie pour ça d'ailleurs que la présence militaire française est entièrement refondue au Mali. En revanche, le débat n'est pas aussi tranché et le reste, c'est Nathanaël Charbonnier qui raconte.
Pour les autorités et l'opinion publique française, il est difficile, bien sûr, d'imaginer négocier avec des terroristes qui ont juré votre mort. Mais ici, à 6000 km de Paris, la réponse est plus compliquée pour une raison simple. Cela fait 8 ans maintenant que le Mali souffre, et comme l'explique Mamadou Tembeli, habitant du centre du pays, les populations sont épuisées par cette guerre.
Vraiment, vraiment on est fatigué. Dans notre pays, le pays Dogon, tout le monde sait que c'est un lieu touristique. Mais ça fait bientôt 6 ans, on n'arrive même pas à dormir. On est prisonnier de notre village. Et les peuples aussi, c'est le même pareil. J'ai dit, on ne sait même pas c'est quel genre de conflit qu'il y a entre nous, on ne sait même pas, je te le jure.
Est-ce qu'il faut négocier avec les terroristes?
Je peux dire qu'il faut négocier avec les terroristes. Surtout les têtes des terroristes qui sont ici, sont tous des Maliens. Donc si on s'assoit de parler, on trouvera une solution.
Mamadou Tembeli, qui croit en une négociation possible, tout comme une bonne partie de la population, notamment celle qui s'était exprimée fin 2019, lors du dialogue national inclusif qui avait été initié pour tenter de trouver une solution à cette guerre par l'ancienne majorité dont faisait partie Amadou Koïta.
Le dialogue national inclusif qui s'est tenu il y a un an a demandé de négocier avec ceux qui n'ont pas les mains entachées de sang. Vous savez, la pauvreté, souvent la situation économique difficile, constitue un terreau fertile pour l'enrôlement des jeunes dans le terrorisme. Voilà pourquoi nous avons estimé qu'il faille créer les conditions pour négocier avec ceux qui ont pris le mauvais chemin et faire en sorte qu'on puisse les ramener sur le bon chemin.
Et si un consensus semble se dessiner au Mali pour aller vers plus de dialogue et de négociations avec ceux qui font la guerre, il reste toutefois un certain nombre de problèmes à régler.
Discuter de quoi? Avec qui? Quel groupe armé? Les hommes en armes sont nombreux aujourd'hui au Mali?
Jérôme Pigné, président du réseau stratégique sur la sécurité au Sahel, un réseau citoyen.
Est-ce qu'on discute avec des milices? Est-ce qu'on discute avec des groupes armés terroristes? Qui sont ces groupes armés terroristes?
Et parler de quoi?
C'est toute la question. De négocier des accès, des corridors humanitaires, négocier le fait d'écarter les jeunes de certains trafics. Maintenant, je dirais que cette discussion qu'on a aujourd'hui pourrait tout à fait ne plus être valable dans quelques semaines, parce que c'est toujours une question aussi d'ascendant, je dirais, militaire et stratégique. Malheureusement, sur le terrain, depuis quelques années, depuis quelques mois, l'avantage est aux groupes armés terroristes et pas aux forces conventionnelles.
Et c'est à ce moment qu'arrive la question, celle de savoir avec qui négocier. Avec des hommes comme Haq Gali, leader politique des terroristes dans toute la région, ou avec un homme comme Amadou Koufa de la Katiba Massina, acteur local. Avec tout le monde, explique Boubacar Ba, chercheur et proche du nouveau pouvoir malien.
Amadou Koufa est dans la chaîne de négociation. On négocie avec les conseils des familles dirigeantes, on négocie avec les bergers, on négocie avec les populations locales. Ce sont ces populations qui vont après dire à Koufa, attention, nous en avons assez de cette guerre. Nous voulons aller sur d'autres voies. Nous voulons l'école. Mais écoutez, est-ce qu'il y a d'autres voies que de négocier? Il n'y en a pas.
Négocier avec tout le monde, mais pas forcément avec n'importe qui, semble pourtant lui répondre Drissa Traoré de la Fédération internationale des droits de l'homme, qui rappelle que la paix de demain ne peut se faire dans l'impunité totale.
Dans le cadre d'éventuels dialogues avec le groupe djihadiste, il faut peut-être mettre un curseur. Les curseurs sur notamment les lignes rouges à ne pas franchir. Pour nous, oui, on n'est pas contre le dialogue, mais pour dialoguer, il faut effectivement faire énorme attention pour ne pas que les auteurs des crimes graves échappent à la justice.
Enfin, ici à Bamako, cette marche inévitable vers la négociation avec les djihadistes inquiète aussi, notamment ceux qui se sentaient protégés par les militaires français de l'opération Barkhane.
Nathanaël Charbonnier pour le reportage. Merci beaucoup Nathanaël. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Mariam El Kurdi.
Et Mariam, attention, ça fait un peu de vent. Vous nous emmenez d'abord dans un hélicoptère et nous sommes au Liban.
Oui Fabienne, et pas n'importe lequel, un hélicoptère de l'armée avec qui on prend de la hauteur. On survole des montagnes, des champs, des maisons. Nous sommes au-dessus de la vallée de la Beka, à l'est du pays. Le Liban vu d'en haut, c'est ce que propose l'armée aux touristes pour renflouer ses caisses, car l'institution est elle aussi frappée de plein fouet par l'effondrement économique dans le pays. Un formulaire d'inscription vient d'être mis en ligne sur le site internet de l'armée libanaise. Formulaire disponible en arabe, mais aussi en anglais et en français. Durée du vol, 15 minutes, 3 personnes autorisées à monter à bord et chacun doit payer environ $150 en espèces. Une opération hors du commun pour affronter une situation inédite, selon Mohamed Loubani, lieutenant-colonel de l'armée de l'air libanaise. Les armées, en général, font la guerre. Des guerres traditionnelles et des guerres non conventionnelles, explique-t-il. Nous pouvons qualifier la situation actuelle au Liban d'inhabituelle et donc c'est une guerre non conventionnelle. Une guerre non conventionnelle doit se mener avec des moyens non conventionnels, explique-t-il. Donc ce projet s'ajoute aux efforts des dirigeants militaires pour faire face à la situation actuelle. La crise économique aggravée par la pandémie est sans précédent au Liban. La monnaie a perdu environ 85% de sa valeur. La moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La majorité des actifs souffrent d'une chute vertigineuse du pouvoir d'achat. De plus en plus de ménages ont du mal à accéder aux services essentiels, notamment l'accès aux soins sanitaires. Si certains Libanais applaudissent l'initiative de l'armée sur les réseaux sociaux, d'autres l'accueillent avec sarcasme, selon le média en ligne d'opposition Al-Modon, car elle illustre, selon eux, l'effondrement de l'institution militaire et plus largement celui de l'État.
Une autre armée maintenant, Mariam, c'est au Bangladesh.
Oui, ici, l'armée et la police bangladaise sont déployées dans les rues de Dhaka, presque vides, mais pas suffisamment pour les militaires qui vont à la rencontre des passants ou arrêtent des voitures. Ils essayent de faire respecter le confinement qui vient d'être imposé dans le pays pour une semaine. Ça nous rappelle des souvenirs ici en France. Là, il s'agit de lutter contre la propagation du variant Delta, plus contagieux. Le confinement est strict. Les habitants ne peuvent sortir qu'en cas d'urgence et pour acheter des produits de première nécessité. Difficile à accepter pour Mohamed Hassan, qui travaille dans les transports. Nous avons à peine de l'argent pour acheter de la nourriture. J'ai déjeuné hier et jusqu'à maintenant nous sommes affamés, dit-il. Que pouvons-nous nous faire, se demande-t-il. Je veux dire aux autorités de relâcher le confinement et de nous laisser travailler en respectant toutes les règles d'hygiène nécessaires pour que nous puissions vivre en paix, selon lui. Mais le gouvernement s'inquiète d'une hausse inquiétante et dangereuse du nombre de cas dans un pays fortement peuplé, 168 millions d'habitants, et frontalier de l'Inde où le variant Delta, qu'on appelait d'ailleurs avant variant indien, a été identifié pour la première fois.
Allez, direction le Danemark, rien à voir avec une atmosphère nettement plus paisible.
Oui. Alors le concert que vous entendez est donné par un duo. Une violoniste et un violoncelliste. Mais il ne se tient pas dans une salle de spectacle, ni même dans une rue, non. Nous sommes à la campagne, à Steves, au sud de Copenhague. Et le public est tout aussi inhabituel que le cadre. face aux deux musiciens des bovins qui semblent écouter attentivement, paisiblement. Car oui, la musique adoucit aussi les mœurs de nos amis les vaches. La violoniste s'appelle Roberta Verna, le violoncelliste Jacob Shaw. Il dirige une école de musique, l'école scandinave de violoncelle. Faute de pouvoir se produire pendant la pandémie, il s'est tourné vers ce public insolite. Et comme l'expérience a été concluante, eh bien il la poursuit même après la réouverture des salles de spectacle. Les bovins, dit-il, réagissent différemment selon les différents morceaux. Nous avons joué quelque chose qui était légèrement plus entraînant et un peu plus moderne, et beaucoup d'entre eux n'ont pas apprécié et sont partis, dit-il. Je pense que le type de morceau le plus proche de leur voix, de leur mugissement, est en fait similaire au son d'un violoncelle, ce qui explique pourquoi il a tant de succès avec eux, détaille-t-il. Ça fait apparemment autant de bien aux bovins qu'aux musiciens, heureux de pouvoir simplement jouer leur musique. Autre avantage ici, à part le magnifique cadre champêtre, aucune jauge, pas de passe sanitaire, aucun risque de cluster, Fabienne.
Allez savoir si les vaches ne vont pas être obligées de présenter leur passe sanitaire un de ces jours. Maria, merci beaucoup. À demain, vous partez avec quelques fantômes, ceux de Karen Nelson, The Ghost Who Walks, c'est sur France Inter. The Ghost Who Walks sur France Inter, à la direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde.
I pledge to be a president who seeks not to divide.
L'Amérique d'après Trump avec Loïc Loury. Loïc, aujourd'hui, au lendemain des célébrations du 4 juillet, le président américain en a profité pour organiser une garden party comme de coutume à la Maison-Blanche.
Oui, absolument. Barbecue, feu d'artifice, les grands classiques pour un millier de soldats et travailleurs essentiels. Le thème cette année, America is back together, l'Amérique est de retour, comprenez après une année et demie de pandémie.
Il y a 245 ans, nous proclamions notre indépendance vis-à-vis d'un roi lointain. Aujourd'hui, nous sommes plus proches que jamais de déclarer notre indépendance à l'égard d'un virus mortel. L'Amérique est de retour.
Voilà, sauf que Joe Biden vend peut-être la peau de l'ours un peu vite. Plusieurs journaux s'interrogent. Joe Biden ne célèbre-t-il pas la fin du Covid trop tôt? C'est un titre du Washington Post. Pour le président, à vrai dire, c'était difficile de reculer. Il avait fait de ce 4 juillet une date symbolique dès le mois de mars, celle d'un retour à la normale. Il avait aussi fixé un cap, 70% de primo-vaccinés parmi les adultes. C'est raté, à quelques millions de doses près. La vaccination commence à plafonner ici aux États-Unis et les contaminations repartent légèrement à la hausse dans le sud du pays, à tel point qu'hier, plusieurs gouverneurs républicains, c'est assez rare pour être souligné, ont appelé leurs administrés à se faire vacciner. Ici, Jim Justice de Virginie-Occidentale.
Dans les États républicains, il y a probablement beaucoup de gens qui sont très, très conservateurs dans leur façon de penser. Et ils se disent qu'ils n'ont pas besoin du vaccin. Nous avons une loterie dont le principe est que si vous vous faites vacciner, vous recevez des cadeaux. Mais il y a une autre loterie, c'est celle de la mort.
Voilà, il y a à peine plus de 50% de primo-vaccinés dans son état, contre par exemple 72 ici à New York ou 85 dans le Vermont, record en la matière. Cette réticence vaccinale concerne une Amérique plus rurale, plus conservatrice, mais aussi la communauté afro-américaine.
Alors, ce qui n'a pas empêché donc en tout cas l'Amérique de célébrer ce 4 juillet et Donald Trump d'organiser un grand meeting en Floride.
Oui, signe sans doute d'un certain retour à la normale, comme dit Joe Biden. Donald Trump, ces dernières semaines, a réenfilé son costume de tribun. Un premier meeting avant un déplacement à la frontière mexicaine la semaine dernière pour inspecter son fameux mur et donc un autre meeting samedi en Floride devant des milliers de personnes. L'ex-président n'est toujours pas officiellement candidat pour 2024. Il continue en revanche d'affirmer avoir été spolié lors de la dernière présidentielle.
Nous avons remporté la présidentielle. Nous avons changé le monde. Nous avons restauré le respect à l'égard de notre pays partout dans le monde. Et attendez de voir ce qui va se passer. Des choses géniales vont se produire pour notre pays.
Mais Donald Trump ne s'est pas étendu en revanche, Fabienne, sur les inculpations qui visent désormais la Trump Organization et le trésorier de l'entreprise familiale, des mises en examen qui pourraient menacer une candidature du milliardaire dans 3 ans à la présidentielle.
Et puis Loïc, autre signe d'un retour à la normale, ça se passe dans le stade de Coney Island à New York, plein à craquer.
Voilà, pas de baseball ou de football, mais le concours annuel de mangeurs de hot dog de Nathan. C'est très sérieux. La compétition est même retransmise sur la chaîne ESPN. Cette année, 5000 personnes y ont assisté et le champion s'appelle Joey Chestnut. 14e victoire pour lui. Il est absolument imbattable et il dépasse même son record cette année. 76 hot dogs engloutis en 10 minutes. Chez les femmes, c'est Michelle Lescaut qui l'a emporté avec 30 hot dogs et 3 quarts. J'ai envie de dire, Fabienne, vive l'Amérique.
Oui.
Vive l'Amérique.
Vous avez bien raison. Je suis très intrigué par le 3 quarts. Je me demande ce qu'elle a fait du quart restant.
Ça devait être trop, j'imagine.
Allez Loïc, à bientôt, à la semaine prochaine. Même salut.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, le territoire palestinien de Cisjordanie est secoué par des manifestations à répétition depuis une dizaine de jours. Elles ont un parfum de nouvelle intifada à ceci près qu'elles visent le pouvoir palestinien en place. Ça sent le début de la fin pour le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et c'est votre monde d'après.
Oui, d'ordinaire, quand les Palestiniens sont dans la rue, c'est pour exprimer leur colère contre l'occupant israélien. Mais pas cette fois. Le slogan que l'on entend dans les rues de Ramallah, c'est bien « Abbas dégage ». Les manifestants visent leur propre dirigeant. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la mort de Nizar Banat. Ce militant des droits de l'homme, âgé de 43 ans, était un libre penseur, prompt à critiquer le président de l'autorité palestinienne, sur Facebook en particulier. Le 24 juin dernier, à 3h du matin, plus de 20 policiers palestiniens ont fait irruption à son domicile et l'ont roué de coups, embarqué de force. Il est mort dans la foulée. Une vague de protestations a suivi, elle n'est pas retombée depuis. Avant-hier soir encore, des centaines de Palestiniens étaient dans les rues de Ramallah, la capitale de la Cisjordanie, pour réclamer justice. Et l'autorité palestinienne répond par la répression. Tirs de gaz lacrymogènes, arrestations, intimidations, confiscation de téléphones portables, agressions sexuelles contre les femmes qui manifestent et ciblage délibéré des journalistes à 35 reprises au cours des derniers jours selon l'association Reporters sans frontières. Ce matin d'ailleurs, des dizaines de reporters palestiniens en ont appelé à la protection de l'ONU pour les aider à remplir leur mission d'information.
Et ça en dit long sur l'état de la démocratie palestinienne, Jean-Marc.
Ah, vous savez, on reproche souvent à la démocratie israélienne son instabilité, ses élections à répétition, mais au moins en Israël, on vote et on vote librement. Dans les territoires palestiniens, en revanche, plus personne n'a mis un bulletin dans l'urne depuis 15 ans. Au printemps dernier, le processus semblait pourtant relancé avec une série de votes législatifs, présidentiels programmés entre mai et juillet. Et l'envie de s'exprimer était bien là. 93% des électeurs s'étaient inscrits. 36 listes s'étaient constituées avec beaucoup de femmes candidates, un quart du total. Donc un vrai gage de renouvellement. Mahmoud Abbas a tout mis par terre, tout annulé, reporté sine die, en utilisant un prétexte, le refus israélien d'autoriser le vote parmi les Palestiniens de Jérusalem-Est. En réalité, le chef de l'autorité palestinienne redoutait surtout la concurrence électorale de ses adversaires, les listes autour de Marwan Barghouti et de Mohamed Dahlan, et bien sûr celle du grand rival, le Hamas islamiste. On va le dire tout net, Abbas, âgé de 86 ans, L'architecte des accords de paix d'Oslo n'est plus celui que l'on surnommait alors Abou Mazen. Il est devenu l'incarnation d'un pouvoir illégitime, vieillissant, corrompu, retranché dans son palais de la Moukata, en pleine dérive autoritaire. Il n'a pas de ligne politique, comme en témoigne son incapacité à prendre une position claire lors de la poussée de tension avec Israël au printemps dernier. Il n'a pas davantage préparé sa succession. Plus les jours passent, plus le décalage s'accroît avec une population palestinienne dont l'âge moyen est de 21 ans.
Et donc, personne ne peut plus rien y faire, c'est ça l'idée ?
En tout cas, personne ne veut rien y faire. Israël n'a aucune envie de voir émerger un pouvoir palestinien rajeuni et légitime. Abbas, on peut facilement le montrer du doigt et dire « Regardez, ça marche pas, c'est la Libye parfaite pour poursuivre la politique de colonisation progressive engagée ces dernières années en Cisjordanie et pour éviter de reprendre de vraies négociations de paix. » Le Hamas, qui est omnipotent sur la bande de Gaza, se satisfait tout autant du statu quo. Forcément, la situation lui permet de revendiquer le titre de meilleur défenseur de la cause palestinienne, quitte à détourner, instrumentaliser la colère des habitants de Jérusalem-Est pour justifier une nouvelle guerre, on l'a vu, avec Israël. Seuls les Occidentaux pourraient éventuellement faire quelque chose, puisqu'ils portent financièrement l'autorité palestinienne à bout de bras, à coups de millions de dollars et d'euros. Ils pourraient fermer le robinet, mais ils préfèrent encore le vieux dirigeant corrompu à l'incertitude de l'inconnu. Et c'est comme ça qu'Abbas reste au pouvoir, en réprimant et en faisant sauter des fusibles. Le prochain à sauter face à la contestation actuelle pourrait bien être l'actuel Premier ministre Mohamed Chaye. Mahmoud Abbas est donc devenu l'un des principaux obstacles, en fait, à l'aboutissement de la cause qu'il est censé défendre. La population palestinienne mériterait mieux que ce dirigeant actuel.
Jean-Marc Fourré, Le Monde d'après, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc. Et bien sûr, à demain, le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Roussel et puis le téléphone sonne dans la foulée. Merci de passer la soirée avec nous sur France Inter. À tout de suite.